France Culture.
À voix nue, Éric Lemasson, avec Israël Nizan,
gynécologue obstétricien, parce que préoccupé par la cause des femmes depuis 50 ans.
Premier épisode avec un prénom comme le mien. Bonjour Israël Nizan.
Bonjour.
Vous nous recevez à l'hôpital, l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine, où vous avez été nommé il y a quelques mois directeur médical. C'est un peu votre bâton de maréchal, on peut le dire. Vous parachevez ici 50 ans d'une carrière médicale hospitalière, donc dans une succursale du système privé américain, après avoir exercé toute votre carrière au sein des CHU, donc l'hôpital public français. Deux salles, deux ambiances, ça ne doit pas du tout être la même chose.
Ça n'est pas du tout la même chose. La médecine libérale a des avantages considérables et aussi des inconvénients par rapport à la médecine publique, mais c'est complémentaire.
Votre discipline, l'obstétrique, s'est trouvée être, dès votre internat, révolutionnée par les progrès, on peut dire vertigineux, de la technologie. Ça a commencé par un outil qui paraît tellement banal aujourd'hui, mais qui était à l'époque révolutionnaire, l'échographie. Et vous en avez été l'un des pionniers. C'était quelque chose d'important.
Voir l'intérieur du corps et surtout voir le fœtus et le faire devenir un véritable patient, c'était une révolution jusque-là. On ne pouvait dire quelque chose sur l'enfant qu'à sa naissance. Et enfin, on pouvait le voir, l'examiner, le soigner, l'avorter. Et tout cela apparaissait dans ces années-là, c'était une découverte formidable.
Alors, au-delà de ces souvenirs proprement médicaux, je pense qu'ils seront passionnants, mais votre parole, Israël Nizan, a ceci de particulier que, contrairement à nombre de vos confrères, qui pour certains prudemment préfèrent ne surtout pas prendre de position publique sur les grandes questions qui fâchent, c'est-à-dire les questions éthiques, qui sont évidemment éminemment politiques, vous, Israël Nizan, c'est l'inverse. En permanence, vous vous exposez, vous prenez des positions publiques, vous écrivez des tribunes, des livres, des tribunes qualifiées soit de courageuses, soit, au contraire, franchement décriées par des adversaires que vous avez, on va dire, un peu nombreux, même au sein de votre profession. Alors, j'ai une question simple, vous aimez la bagarre, d'où ça vient ce besoin de pas simplement exercer votre médecine, mais prendre part au débat public ?
Ce n'est pas que j'aime la bagarre, mais j'ai du mal à assumer l'iniquité. Et l'iniquité, notamment quand elle concerne les femmes, peut-être que ça me vient de ma mère, mais le fait de ne pas considérer les femmes au même titre que les hommes et le fait d'avoir à leur égard des injustices me gêne terriblement, au point que ça m'empêche de respirer, ça m'empêche de dormir, et j'éprouve le besoin de dire ça, ça va pas, même si ça plaît pas.
Donc ce qui vous passionne, c'est de tenter d'orienter la réflexion collective sur la bioéthique, alors même que d'ailleurs vous n'avez jamais été membre du CCNE, le fameux Comité Consultatif National d'Éthique. C'est une bizarrerie, on pourra en parler peut-être.
J'aurais bien voulu y aller, à plusieurs reprises on m'a dit... C'est normal que tu y viennes, puis j'y suis pas allé. Les hasards de la politique et peut-être également du fait que j'avais des positions très claires sur certains sujets qui plaisaient pas.
Ah. Bon, je vais énumérer justement rapidement les thèmes que nous allons aborder au cours de ces 5 entretiens pour à voix nue, Israël Nizan. Le délai légal de l'IVG. La procréation médicalement assistée, le diagnostic préimplantatoire, la congélation des ovocytes, le statut de l'embryon humain, la gestation pour autrui, etc., etc. Il y a même le clonage thérapeutique, la gratuité de la pilule contraceptive pour les mineurs. Et la confidentialité, toutes ces questions qui ont surgi au cours de votre carrière. Alors, premièrement, quelle est votre grille de lecture, votre boussole pour vous forger des convictions sur ces questions complexes ?
Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et ça, c'est une grille morale qui m'a toujours guidé. Et en particulier, lorsque je suis rentré dans cette discipline, c'était en 1974, juste avant la loi Veil de 1975. Et comme jeune interne, j'ai été confronté avec grand désarroi à deux jeunes femmes de 16 ans qui sont mortes en 24 heures dans des douleurs effroyables après avoir tenté d'avorter en s'injectant de l'eau savonneuse dans l'utérus. Elles sont arrivées toutes les deux avec 42 de température et rien n'y a fait, aucune perfusion d'antibiotiques, on n'a pas pu les sauver, elles sont mortes. Et il y en avait 300 qui mouraient chaque année en France, c'est-à-dire une par jour. Mais les femmes aisées ou qui avaient des relations ou un réseau ne mouraient pas. Première injustice insupportable au point que je me suis dit, puisque c'est un crime d'avorter et que ce crime peut être commis régulièrement dans notre pays, quittons cette discipline où j'aurai ça sous les yeux tout le temps et où je vais en souffrir de voir cette iniquité là qui tue certaines femmes et pas d'autres.
En fait, c'est comme si vous nous disiez le fait d'être confronté directement à la mise en œuvre de grands choix de société vous donne un regard particulier, un jugement particulier sur ces grandes questions. C'est facile d'avoir des points de vue théoriques sur ces questions. C'est pas la même chose que devoir les mettre en œuvre au quotidien dans votre pratique.
Je pense que les médecins qui assistent, parce qu'ils sont au bord de la scène, à ce qui se passe et qui ont, comme on dit, les mains dans le cambouis, ont un devoir de témoignage, ont le devoir de dire « voilà ce que je vois, voilà ce qui ne va pas ». Alors certains médecins se contentent d'appliquer la loi. Je l'applique également et très méticuleusement, mais je me permets de la contester. Je me permets de dire « ça, ça ne va pas, ça, il faut qu'on le change ». Parfois, j'ai eu gain de cause, parfois pas. Et il y a encore des domaines où nous pourrions véritablement changer la loi parce qu'elle est encore responsable d'iniquité.
Alors nous allons détailler avec vous ce demi-siècle de carrière à l'avant-garde du progrès médical, de sa technologie et des grandes questions éthiques qu'il pose et qui vous ont été posées directement. Mais avant cela, je voudrais, vous avez parlé de l'IVG et de vos souvenirs de jeune interne. Mais pour bien comprendre quel a été vos regards sur toutes ces questions, je voudrais prendre un deuxième exemple. C'est celui de l'interruption médicale de grossesse. Je rappelle que la loi française prévoit que l'on peut à tout moment, jusqu'à la veille de l'accouchement, interrompre une grossesse si on détecte une malformation chez le fœtus d'une particulière gravité.
Et incurable.
Et incurable, c'est la loi. Mais qui doit décider ? Les parents ? Les médecins, les juges. C'est un exemple qui vous place, vous, médecin obstétricien, en première ligne des choix de vie et de mort sur un enfant à naître.
Comme souvent, dans cette question éthique, il n'y a aucune bonne réponse. On pourrait dire que c'est la société qui décide quelle malformation peut être avortée et quelle autre ne peut pas l'être, constituant une sorte de liste auquel on pourrait se référer pour savoir si une trisomie 21 ou un spina bifida peuvent avoir, si les parents le demandent, accès à l'interruption médicale de grossesse. Le législateur ne s'y est pas trompé et a évité cet écueil-là en évitant de constituer une liste qui aurait été démodée à peine écrite. Et donc, il a dit, ça pourrait être les médecins. Et dans l'état actuel des choses, c'est les médecins. C'est les médecins qui sont chargés par la société de dire si la malformation est incurable et d'une particulière gravité. En d'autres termes, dans le système actuel français, et je ne le critique pas en l'occurrence, les parents demandent et les médecins disposent. Ce qui a indisposé pas mal de parents. Chaque année, j'ai assisté à quelques demandes d'interruption médicale de grossesse au 6e ou au 7e mois de grossesse pour un doigt qui manque. Les parents ayant une telle angoisse que le doigt qui manque cache la forêt et que l'enfant ait un handicap plus profond, que pétris d'angoisse, ils sont amenés à demander une interruption de grossesse. J'en viens à conclure que les parents peuvent tout demander et les médecins ne peuvent pas tout accepter. Et donc, ça amène à dire que c'est pas une bonne solution, mais c'est la moins mauvaise solution, que ce soit les parents qui demandent et les médecins qui autorise ou non d'avoir recours à l'interruption médicale de grossesse.
D'où la question des limites et des représentations que chacun a en fonction de sa conscience, sa morale, voire sa religion. Vous, médecin, vous avez aussi une conscience de citoyen. Donc, quelle est votre bonne grille de lecture ?
Alors, il n'y a pas de bonne grille de lecture, mais la loi a institué ce qu'on appelle des comités pluridisciplinaires. C'est Jean-François Mattei avec lequel j'avais beaucoup discuté de comment peut-on protéger les fœtus contre l'angoisse parentale et l'angoisse du médecin. Le médecin qui a peur de sous-estimer la gravité d'un pronostic et qui se dit « si j'ai sous-estimé, les parents vont se plaindre ». Donc il y avait un intérêt commun entre le médecin et les parents d'interrompre la grossesse, parfois pour des anomalies minimes. Ceci n'est plus possible en France. Parce que les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, qui sont au nombre de 50 et comportent des spécialistes dans toutes les régions, analysent les dossiers très méticuleusement et disent « là, oui, on peut donner le feu vert pour une interruption, et là, non, on ne peut pas le donner ». On est dans un système où les fœtus sont protégés de l'angoisse médicale et de l'angoisse parentale.
Alors venons-en, Israël Nizan, à votre parcours de vie, à votre parcours professionnel. À votre vocation de médecin, il y a quelque chose, pardon, qu'on est obligé de relever chez vous lorsqu'on parle de votre naissance, de vos origines, c'est votre prénom, qui est très beau sans doute, qui est probablement a dû parfois être lourd à porter. D'où vous vient-il ?
C'est un prénom très difficile à porter, surtout en période de crise, où on est assimilé à son prénom. Je suis né 10 jours après l'arrivée de mes parents en Israël, qui émigraient. Mon père était grand résistant et une partie de la famille avait disparu dans les fours crématoires. Et après la guerre, la volonté de quitter l'Europe était manifeste chez mes parents jeunes mariés. Et je suis né 10 jours après leur arrivée en bateau en Israël. Et mon père, qui était jeune médecin, fraîchement diplômé, au moment de soutenir sa thèse, il avait son billet de bateau dans la poche. En arrivant sur le port de Haïfa avec sa femme enceinte au dernier degré, si j'ose dire, va voir l'agence qui s'occupait d'accueillir les immigrés. Et le bureaucrate qui était là lui dit « Mais ton diplôme, il est valable en France ?»« Ben oui, mais tu es condamné de droit commun ?»« Ben non, mais... » Tu as le droit d'exercice en... Mais oui, il est fou.
Il est fou de venir s'installer en Israël.
Il est fou de quitter la France où il peut exercer le métier de médecin pour venir dans un pays où il y a des cartes de rationnement, il n'y a pas à manger, et il y a les Arabes qui attaquent sur les trois frontières. Et donc, ils lui ont proposé d'aller dans un kibboutz sur la frontière jordanienne où je suis né. Et donc, ils m'ont appelé Israël parce qu'ils étaient tellement dans l'espoir de fonder une nouvelle famille, de fonder un nouveau rameau de la famille à l'abri de ce qui s'était passé en Europe, que Israël, ça leur paraissait évident. Il y a eu un petit doute quand même parce que je m'appelle Israël Francis. Donc ils ont eu, sur le moment d'aller à l'ambassade de France, un petit sursaut. Et à plusieurs reprises, lorsque j'ai été en but plus tard à l'antisémitisme, à cause de ce prénom à l'école publique, mon père m'a dit « Si tu ne veux plus te faire casser la gueule parce que tu as tué Jésus, que tu ne connais pas, tu as une solution qui s'offre à toi, tu te fais appeler Francis Nizan et il t'arrivera plus rien. » Et même à 9 ans, je pouvais déjà plus faire ça. C'est-à-dire que ce recul en arrière, cette pleutrerie face à l'annonce de sa propre judéité n'était déjà plus possible à 9 ans.
Le prénom, mais aussi le nom de famille que votre père, je crois, avait souhaité changer en arrivant en terre promise.
Il y avait la famille originaire de Pologne qui s'appelait Neugewürz, Nouvelles Épices. Les Juifs, habituellement, s'appellent Ben Yaakov, Ben Yehuda, Ben fils d'eux, évoquant la filiation paternelle, en l'occurrence. Et lorsque les Polonais ont mis en place l'état civil, ils ont appelé les Juifs et ils lui ont dit « Tu vas t'appeler comment ? Ben Yehuda ? Non, tu peux pas t'appeler comme ça. Il faut que tu donnes un nom. Ah ben, j'ai pas d'idée. » Alors, un arrière-arrière-grand-père devait vendre des épices, donc ils l'ont appelé Neugewürz, qui veut dire « Nouvelles épices ». Quand mon père est arrivé en Israël, Il se débarrassait de toutes les scories de cette vie-là antérieure et il a choisi un nom qui, dans le Talmud, veut dire bourgeon, qui commençait par la même lettre que Neugewürz, qui était Nitzan. Il voulait faire un nouveau bourgeon à cette famille. Et quand il est rentré en France, on lui a dit « On comprend que vous changiez de nom et que vous ne vouliez pas garder Neugewürz. En revanche, si vous changez de nom, c'est pour un nom français. On va franciser votre nom israélien. » Et c'est ça qui a donné Nizan. Et pour éviter une analogie avec l'auteur Nizan, N-I-Z-A-N, il a choisi N-I-S-A-N-D. Voilà d'où vient le nom.
Mais juste d'un mot, vous êtes né en Israël, vous vous appelez Israël. Votre père, votre famille rêvait de construire un nouvel État. L'État, en effet, est toujours là, mais eux sont rentrés. Ça s'est mal passé ?
Ça s'est mal passé, d'abord parce que Israël était un pays où quitter la France pour quitter l'armée, et il a dû retourner à l'armée en Israël. Et puis, il y avait une espèce de privilège en 1950 à ceux qui étaient nés sur place, qu'on appelle les Sabras, et ceux qui étaient immigrés. Et quand il s'est agi de créer la première banque de sang en Israël, où on avait vu que mon père pouvait avoir les capacités pour le faire, ils ont finalement préféré un Sabra, quelqu'un qui était né sur place, à lui. Il en a été très vexé et dégoûté.
Et donc, la famille est retournée en France
Sa ville natale de Strasbourg, et on s'est établi en Alsace.
Donc vous avez grandi en Alsace, l'Alsace, Strasbourg, votre ville. La famille était installée en Alsace depuis plusieurs générations, en venant d'Europe de l'Est, c'est bien ça ?
La famille était installée depuis le début du 19e siècle en venant de l'Europe de l'Est. Les uns après les autres avaient émigré, les uns à 14 ans avec un écu cousu dans la doublure du veston, les autres sans rien. Et il y avait à Strasbourg une énorme communauté d'immigrés polonais.
Vous avez évoqué votre père qui était donc médecin. J'imagine, on va en parler, que ça a eu une influence sur votre vocation, la vôtre. Mais un mot sur votre père. Vous avez dit, il était soldat, il a été grand résistant. Et d'ailleurs, je crois savoir que au mur de votre salon ou dans votre maison à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, il y a une photo de votre père présent sur un camion de FFI, je crois, à la libération d'une ville du sud de la France.
La libération de Castres. Il y avait plusieurs maquis de résistants dans le sud-ouest, et mon père a fait partie de ces maquis et a participé à des attentats contre les trains allemands. Nous a beaucoup raconté ce qu'il avait fait pendant la résistance. Et la chose qu'il racontait le plus souvent, c'est quand ils avaient fait prisonnier des soldats allemands, donc son maquis, après avoir fait sauter la locomotive qui avait déraillé.
Pourquoi était-il à Castres et non pas ailleurs ?
Parce que tous les Juifs de l'Est de la France, au moment de l'invasion allemande, ont émigré vers le sud-ouest. Périgueux, Limoges, il y a eu une émigration assez forte à ce moment-là, parce que tout le monde fuyait l'occupant allemand. Et quand les Allemands ont été rangés en rang d'oignon devant la locomotive explosée, il est allé vers eux. Et il leur a dit « Ich bin Jude ». Et pour les Allemands, avoir des combattants juifs devant eux qui venaient de les bousculer sévèrement et de les faire prisonniers était presque inconcevable. Parce que ce qu'on leur racontait, ce qu'ils voyaient de la judéité, n'était pas du tout ça.
Donc vous naissez en Israël, vous revenez en Alsace, vous grandissez en Alsace, vous faites votre scolarité en Alsace. Votre vocation de médecin, je crois savoir qu'elle ne s'est pas posée finalement. Votre père médecin, naturellement, vous conduisez vous-même à devenir médecin. Pourquoi ?
Tout petit, j'avais entendu parler de la maladie de Marchia Fava Micheli.
Pardon ?
Alors personne ne connaît. C'est une maladie où on urine du sang la nuit, mais pas le jour. Et mon père, qui était hématologiste, connaissait le détail de toutes ces maladies, nous en racontait la partie extraordinaire, la partie étonnante. Je me souviens, à 8 ans, d'avoir appris ce qu'est l'hémophilie, que ça touchait que les garçons et pas les filles, et pourquoi ça touche les garçons. Et pour moi, c'était un monde merveilleux où la curiosité rivalisait avec le fait d'être instruit, etc. Et donc, même tout petit, j'ai eu envie d'être médecin et véritablement, ça a modifié et ma scolarité et tout le reste parce que ça nécessitait un certain niveau d'études que je n'avais pas atteint, que je n'aurais pas atteint tout seul.
C'est-à-dire, vous n'étiez pas un bon élève ?
Ça m'intéressait pas ce qui se disait à l'école. J'étais toujours dernier de classe, jusque très tardivement, jusqu'au moment où j'ai compris que j'allais pas pouvoir être médecin à cause de ça.
Que s'est-il passé alors ? Le déclic est venu comment ?
J'ai été orienté en fin de troisième vers la vie active.
On est loin du professeur de médecine.
Apprentissage. donc j'ai dit je veux juste apprendre la médecine. Donc à 14 ans, on m'a dit il faut passer un examen si tu veux rentrer en seconde. Le BEPC ne suffit pas, il faut que tu passes un examen.
Vous venez de dire qu'en classe de troisième, vous vous raccrochez par les branches à l'entrée au lycée par un examen d'entrée. Alors cette souplesse d'ailleurs du système scolaire à l'époque, je suis pas sûr qu'elle soit possible aujourd'hui à l'heure de Parcoursup. C'était moins une pour vous.
C'était même moins 15 parce que mes connaissances, ma classe de troisième avait été plus que mauvaise. Et lorsqu'on m'a dit le seul moyen de contrer l'orientation, c'est de passer un examen, c'était échec assuré sur cet examen. Donc j'ai encore eu pas mal de chance de l'avoir. Autrement, j'étais réorienté. Je crois que dans le système scolaire, avec sa rigidité d'aujourd'hui, je n'aurais pas pu être rattrapé, si j'ose dire. À ce moment-là, c'était déjà trop tard et j'aurais été orienté vers des métiers qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. J'ai passé cet examen et en seconde, je suis encore resté dernier de ma classe. J'ai mis encore un an à comprendre qu'il fallait que je prenne mon destin en main et que si je ne le faisais pas, le seul métier que j'imaginais pouvoir faire et qui m'intéressait, allait m'échapper par incompétence et insuffisance de travail. Et là, je me suis mis brusquement à travailler au début de la classe de première. J'en ai profité pour passer mon bac en première. Donc, j'étais dernier de classe en seconde. En première, j'étais non seulement premier de ma classe, mais comme je travaillais en plus la nuit, je me suis inscrit en candidat libre au bac. Et en fin de première, je me suis présenté au bac et je l'ai eu.
Avec un an d'avance.
Avec presque un an et demi d'avance. Je suis arrivé à 16 ans en faculté de médecine, alors que j'ai été un élève catastrophique pendant toute ma scolarité.
Dès votre plus jeune âge, donc après le bac, Israël Nizan, vous vous lancez dans des études de médecine. On est à peu près à l'orée, comme on dit, des années 1970. Et votre rêve, alors, c'est de devenir chirurgien. En tout cas, une discipline où la technicité est importante, c'est ça ?
Oui, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je voie les résultats de mon travail. Un peu thaumaturge, un peu comme si donner des gouttes ou des médicaments n'avait pas d'effet suffisamment rapide pour voir les conséquences de cela. Après, j'ai changé, j'ai vu qu'il y avait d'autres parties de la médecine bien intellectuelles et très profondes et intéressantes. Mais jeune homme, je me disais, si je suis pas là à réparer un os ou à enlever une appendice ou à enlever un cancer, je ne pourrais pas voir physiquement les effets de mon action.
Vous êtes tenté donc par la chirurgie, d'autres disciplines où il faut de la technique. Et comment vous retrouvez-vous du côté de la gynécologie obstétrique, qui est une discipline très particulière? Et je me souviens, lorsqu'on s'est rencontrés, je vous ai posé la question, pourquoi ce choix? Et vous allez me donner la réponse vous-même, mais je l'ai trouvée très belle. Parce que c'est une discipline où il y a la vie et non pas la mort.
C'est une discipline où on voit assez peu de gens mourir. Et j'avais commencé par un an de chirurgie. Et pendant 6 mois, j'ai vu un de mes patients, un qui était dans un de mes lits comme interne, qui avait à peu près le même âge que moi, mourir d'un cancer de l'œsophage alors que sa femme et ses 2 petites filles venaient le voir tous les jours, faisaient 100 kilomètres pour le voir. Et ce patient m'avait pris en affection, j'étais un tout petit peu plus jeune que lui, et chaque fois que je passais la visite, il me disait « Alors Nizan, qu'est-ce que tu vas encore me raconter comme baliverne ? Je sais bien que je vais mourir, je sais bien que t'es mal avec ça. Et il m'attendait, goguenard, j'étais sa distraction quotidienne. Et aujourd'hui, je sais accompagner quelqu'un qui va mourir. Là, je ne savais pas. J'étais, quand je devais passer la visite dans cette chambre, transi de trouille et d'effarement à l'idée que j'allais à nouveau affronter ce type qui était content de me voir. Et moi, j'avais une peur bleue. Je me suis demandé, au choix suivant, je choisis quoi ? Eh bien, je vais chercher une discipline qui soit quand même chirurgicale, mais où on meurt moins. Il y en avait trois, l'ophtalmologie, l'orthopédie traumatologie et la gynécologie obstétrique. Il y avait un poste qui était libre en gynécologie obstétrique, j'y suis allé et bien m'en a pris.
Et vous dites aussi que à la maternité, on est plus nombreux à en sortir, c'est ça ?
C'est les seuls bâtiments où il y a plus de gens qui sortent que de gens qui entrent. Donc, fermer une maternité dans un hôpital, c'est se priver de cette faculté-là.
Alors, l'obstétrique, c'est bien sûr la cause des bébés, mais c'est aussi défendre celle des femmes. Alors même que, à la faculté de médecine, on apprend plutôt à ne pas mélanger les sentiments avec la technique médicale, vous, je vous ai même entendu dire, ou j'ai lu quelque part, que vous disiez « il faut materner les mères »,« mothering the mother ». C'est-à-dire que la cause des femmes, vous l'avez raconté quand vous avez tout à l'heure raconté vos premiers souvenirs de femmes qui s'étaient auto-avortées et qui mouraient, c'est de ne plus vouloir entendre ce cri des femmes et de prendre en considération leur cause, indépendamment bien sûr de celle du bébé à venir.
C'est peut-être, ça me vient sûrement de ma mère. Ma mère a eu 5 garçons et elle était très féministe, grande lectrice de Kate Millett, ce qui énervait mon père, qui lui était très patriarcal. Ma mère faisait un tour de rôle pour la vaisselle et quand l'un des frères s'esquivait pour sauter sa place, on a eu une vraie pression sur comment ça se fait que vous vous comportez comme ça ? À la limite, comment ça se fait que vous faites comme votre père qui allait lire le journal dans son fauteuil après le repas ? Et je me suis habitué à entendre cette femme se plaindre du statut inférieur des femmes dans la société. Que ce soit pour la charge mentale pour les enfants, que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit physiologiquement, la ménopause, les règles, que ce soit la charge de faire les enfants, tout ça est de se contracepter. Tout ça était à la charge des femmes et je l'ai dès le début vécu comme une injustice réparable.
On va en parler dans un épisode suivant de vos jeunes années de médecin hospitalier, donc pour l'épisode 2 intitulé « À la maternité, ils sont plus nombreux en sortant qu'en arrivant ». Vous évoquerez donc la cause des femmes, vous évoquerez aussi vos premiers pas dans ces disciplines nouvelles que sont l'échographie, la médecine fœtale. Nous verrons cela demain, si vous voulez bien, Israël Nizan. À demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Israël Nizan. Réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Éric Lemasson, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.